Alors bonsoir. Je vais vous lire quelques passages des gens d'ici, mais pas en suivant le sens d'écriture, donc le sens linéaire de cet essai, qui arrive à sa fin. Il est pratiquement terminé, il y aura 125 pages à lire. Voilà, pas plus, ça suffit, 125 pages, parce qu'après on se lasse. Alors je vous donne des conseils pour la lecture quand vous l'achèterez, puisqu'il ne sera pas très cher. Vous le déposez dans vos toilettes, vous allez quotidiennement, et puis quand vous êtes là-bas, vous lisez une ou deux pages. Vous voyez? Comme ça ne vous prend pas la tête d'être obligé de lire ailleurs. Voilà, ça c'est pour les gens qui lisent jamais, hein. Voilà, donc je vais commencer, là je suis à la page 111, 112, 113. Voilà, alors j'y vais, hein. Je me lance. Les gens d'ici ne valaient rien. Rien qui pût les valoriser, ne fût-ce que leur passé, leur comportement et leur attitude présente qui ne correspondaient nullement à celle des propres aïeux de l'inconnu de souche ariégeoise. D'authentiques ariégeois qui pérennisaient les traditions à la lettre, sans en cultiver une forme de conservatisme immuable, chassant toute idée dévolue, dévoyé au profit du progrès commercialisé. La corruption par des relations immorales n'avait jamais prévalu dans la famille ariégeoise de l'inconnu. Les gens d'ici n'étaient pas fréquentables. Ils ne représentaient point les valeurs de l'Ariège. La plupart avaient immigré en ces terres suite à des opportunités d'infortune professionnelle ou et de concours de circonstances sociaux. Les ariégeois de souche se comptait sur les bouts des doigts de pied. Quand bien même votre vie pût-elle être entrecoupée, voire entrechoquée d'événements judiciaires, votre acte de naissance répond à l'honneur de votre famille. Celle de l'inconnu avait occupé des postes importants dans la gestion de l'Ariège et son développement, auquel sa famille avait contribué durant des siècles. Il n'y avait pas de collabos de la dernière guerre chez lui. Pas plus hier qu'aujourd'hui, il y eut des militaires, des gendarmes, certes, des CRS et même un directeur de prison. L'originalité architecturale de l'histoire du bourg prit tout son sens, voilà, quand on vit arriver effectivement un jour cet inconnu en question, qui élit domicile au bourg dans l'intention de se retirer de la ville de Toulouse, où l'agglomération s'épandait sans cesse aux alentours des quartiers historiques du centre, ayant conquis les banlieues voisines, reconstituant un quartier définitivement assimilé à son urbanisation galopante. Le village de l'inconnu, qui autrefois se trouvait sur la route de Seyss, le sculpteur du baiser exposé au Jardin des Plantes, où il emmena sa belle Hélène qui l'initia à l'amour tantrique, avait fini par devenir un banal quartier de Toulouse, happé par la modernité qui avait œuvré dans le sens réductible de son patrimoine. Il s'y rendait de temps en temps, puisque la sépulture de ses aïeux y trônait humblement, parmi quelques vieilles connaissances, notamment Mademoiselle Marguerite Bonaventure, que l'homme vit s'éteindre sur son lit de mort dans la rue où il était pratiquement né. Depuis des années, il ne se recueillait plus sur la tombe de ses ancêtres, sachant qu'il les rejoindrait bientôt, étant donné qu'il restait une dernière place qu'il avait retenue, après avoir concerté sa famille sur ce délicat sujet. Alors que quelques membres de celle-ci se rendaient sur la sépulture en question, l'inconnu leur avait sermonné à haute voix, de fait qu'ils se retournèrent tous vers lui. Vous direz aux parents qu'ils n'auraient jamais dû baiser pour me mettre au monde. Tous, alors, intimèrent la même expression du visage, fronçant les sourcils et ouvrant leurs lèvres pour lui répondre, quand ce dernier les interrompit avant qu'ils aient pu dire quelques mots dont on n'oublie jamais la teneur. Je n'aurais jamais dû naître. Puis il partit, seul avec lui-même, comme il aimait être quand il était malheureux. Désormais, c'est donc en Ariège que l'inconnu avait élu domicile, dans le présent bourg, sur les terres de ses aïeux, lesquels avaient possédé autrefois un immense domaine à Saint-Jean-de-Verge. dans l'expectative d'aller vivre plus au sud, il fit halte ici pour quelques années, puisque son idéal consistait à ne posséder aucun bien immobilier afin de se libérer de toute contrainte financière et de ce fait n'être point assigné définitivement à un lieu quelconque. Des photographies montrent sa grand-mère sur ces terres à jamais perdues aujourd'hui. On y voit son père de retour de la résistance en 1945, assis autour d'une table en noyer dressée avec un service à café en porcelaine. Son père a pris le maquis en 1943, en quittant Toulouse pour se rendre en Haute-Savoie, où il participe activement à l'âge de 20 ans au combat des Lières et autres faits d'armes sanctionnés par le capitaine Morel, lâchement assassiné par la milice. D'aucuns appartenant à la notoriété locale que les notables fidélisés par des affinités sélectives, reposant sur la valeur conférée d'après certains critères relatifs aux capacités de résiliation à la communauté, jouissaient de la protection des services de sécurité dévoués à leur cause, au détriment de la déontologie à laquelle ces derniers étaient astreints. À l'arrivée de l'inconnu, aussi étrange que fût cette attitude, la gendarmerie avait détaché quelques hommes de la brigade locale sur le parking où l'homme garait sa voiture, afin de se décharger de tâches immobilières. Le voisin et sa mère observaient les va-et-vient à chaque dépôt d'objets. La gendarmerie, comme d'habitude, resta muette et impassible. La délation était donc monnaie courante, comme il put le constater à maintes reprises. La fille de la propriétaire de l'appartement qu'il louait alla s'enquérir sur l'identité du nouveau locataire. Sa surprise fut grande quand elle apprit que l'inconnu arrivait du bagne de Saint-Martin-de-Ré, ce qui explique la présence des gendarmes sur le parking. Mirabeau et des prêtres réfractaires à la Révolution française furent incarcérés en ce lieu sinistre. Et c'est à la citadelle que Dreyfus fut de passage pour son départ en Guyane. La preuve que la délation demeurait toujours intacte depuis la collaboration sous l'occupation fut établie quand un jour de marché, du lundi, un gendarme frappa à la porte de l'homme pour lui signifier que sa musique était un peu forte et qu'il fallait baisser le son. En tolérant un certain système de vie, on le cautionne et contribue à la médiocrité de l'existence. Il ne s'agit plus alors d'en changer, mais d'en améliorer les éléments qui en composent sa forme conceptuelle, celle par laquelle les efforts se voient allégés, améliorant un système dont dépend toute une société laborieuse. On se rend donc complice, malhonnêtement, implicitement en fermant les yeux sur une certaine vérité tenue secrète. Les raisons reposent plutôt sur les craintes qui courent dans des contextes fragiles. C'est de cette façon que se perpétuent les déchéances sociales accentuant la décadence de la société de manière anxiogène. Cet oxymore produit une violence que couve le mépris quand celui-ci a atteint un degré insupportable pour l'ensemble de la communauté. Généralement, dans une société populaire, leur culpabilité est entière chez ceux qui en connaissent les rouages et ont rendu un espace de vie nauséabond. On savait, du moins, on présumait, que quelqu'un a toujours quelque chose à se reprocher dès l'instant qu'il est différent des autres. Ce n'était pas le cas de l'inconnu installé confortablement en ses pénates dans la fenêtre sur un pont, point de passage à Cardinal Aubourg. Lui, jusqu'à preuve du contraire, devant un tribunal, il n'avait absolument rien à se reprocher. Pas même la médisance, parce qu'il ne fréquentait personne. Ici, il ne trouva personne de suffisamment intéressant pour le convaincre que les gens d'ici possédaient néanmoins quelques valeurs humaines susceptibles de servir la société dans un concept philanthropique conforme à la mentalité du bourg, qui tout à coup se découvrit une mission humaniste. Les dernières élections présidentielles avaient traduit une efficacité des élus voués à des causes partisanes qui ne prévalaient pas avec la récente élection d'un jeune candidat, frais et moulu en politique, s'étant présenté sous les traits d'un jupitérien opportuniste, avide de pouvoir absolu, sans véritable étiquette politique ancrée à un courant indéterminé dans ce domaine, ce candidat à la présidentielle se targua de réformer, d'innover et de transformer tout en promettant, tel le sophiste Gorgias qui essaya de démontrer que Socrate se trompait en son fond philosophique, que la société prendrait une avance sur son retard économique considérable. Et le peuple d'applaudir fut grugé comme jamais la politique française avait su se moquer de ses électeurs. Voilà, j'arrête là, ça suffit, parce que il y a des choses à revoir dessus qu'il faut améliorer, mais le fond il est bon, voilà, c'est le fond il est gardé là-dessus. Voilà, je vous referai d'autres lectures avant qu'il paraisse, comme ça vous verrez. Alors le début est strictement différent de la fin, d'accord. Le début, on est au Moyen Âge, on est à l'époque des conquêtes des Mérovingiens, des Visigoths. On s'achemine, je passe par les Cathares et puis j'arrive aussi à la Révolution française. Et puis effectivement, la contemporanéité est indispensable, elle est incontournable. Et si vous voulez, le c'est pas un chapitre, mais les dernières pages relatives à la contemporanéité, c'est-à-dire à là où je vis, quoi. Eh bien, elles sont assez incisives, voilà. Et elles sont vraies, c'est ça qu'il faut retenir. Je suis de ceux qui considèrent que la vérité est une vertu, et qu'à ce titre-là, la vérité n'a pas besoin de preuves. Voilà, c'est tout. Donc, chacun a sa conscience, chacun sait ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il continue à faire, et pour qui il a travaillé. Voilà. Et pour qui, et pour ceux qui ne le savent pas, mais depuis le début, c'est-à-dire depuis 2016, il travaille pour les mêmes personnes. Allez, bonne lecture.